Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous dans 30 minutes. Vos réactions sur l'élection présidentielle de dimanche prochain au Sénégal, la campagne bat son plein, les caravanes des 19 candidats sillonnent les régions pour convaincre les électeurs. En tout cas, cette campagne a pris un nouvel élan depuis jeudi soir, depuis la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. D'ailleurs, dans quel état d'esprit êtes-vous depuis leur libération? Avez-vous l'impression que le climat politique c'est tout de même décrispé ces derniers jours. Se dirige-t-on vers un scrutin apaisé? Êtes-vous impatient d'aller voter ce dimanche? Appelez-nous, témoignez en direct sur RFI. On a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70. Et comme tous les matins, évidemment, je lirai quelques-uns des commentaires envoyés sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et pour commencer cette semaine, nous allons prendre une première question sur le Sénégal. Après, justement, la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Bonjour Lama Banque.
Bonjour M. Juan et bonjour aux Guinéens vivants au Sénégal.
Ah les Guinéens, vous êtes à Conakry vous-même, hein, dans la capitale guinéenne. Quelles sont vos questions?
Comment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye comptent-ils battre campagne en une semaine pour rattraper leur retard?
Oui, retard effectivement par rapport aux autres candidats qui sont sur le terrain depuis maintenant une dizaine de jours. Bonjour Léa Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Lama Banque.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, c'est vrai que le temps presse pour les deux opposants.
Oui, le temps est extrêmement court, à peine commencé, déjà terminé, il reste tout juste 5 jours avant la fin de la campagne. Alors rappelons que les soutiens du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, n'ont pas attendu sa libération pour démarrer cette campagne électorale. Pendant 6 jours, des dizaines de cadres et députés de l'ex-PASTEF ont sillonné Dakar et sa banlieue sans leur candidat, mais en son nom. Et depuis la libération des deux opposants, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi d'Ousmane Sonko, le fondateur de l'ex-PASTEF est la personnalité véritablement connue dans le pays. L'idée, en fait, est celle d'une double campagne, que la popularité d'Ousmane Sonko, qui lui a été disqualifiée de la course à la présidentielle, servent à son candidat Bassirou, son adjoint et numéro 2 du parti, est peu connu des Sénégalais.
Et on l'a vu d'ailleurs ce week-end à Ziguinchor, dans le sud du pays.
Oui, dans le chef-lieu de la Casamance et fief d'Ousmane Sonko, puisqu'il y est maire. Le tandem a démarré sa campagne, évidemment, là-bas, samedi soir, au milieu d'une foule de partisans. Hier, les deux opposants étaient à Kolda, puis Kédougou et Tambacounda, dans le sud-ouest du pays. Aujourd'hui, direction le centre, avec un meeting à Kaolack, région majeure pour la production de l'arachide et qui est l'un des piliers de l'économie sénégalaise. Et à partir de demain, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont prévu de se séparer cette fois pour démultiplier en fait les lieux où ils vont se rendre et rattraper un peu de ce retard justement et tenter de conquérir encore un maximum d'électeurs avant la présidentielle de dimanche.
Oui, Lama Banque, vous avez une deuxième question, profitez-en, Léa Lisa Vesterhoff est toujours avec nous.
Voilà, l'amnistie dont ils ont bénéficié signifie-t-elle l'abandon de toutes les charges et condamnations contre eux?
Ah, bonne question effectivement, Léa Lisa.
Oui, cette amnistie signifie en effet l'abandon de toutes les charges pour lesquelles ils avaient été arrêtés mais pas encore jugés. Donc dans le cas de Bassirou Diomaye Faye, arrêté en avril dernier après un post sur les réseaux sociaux, il s'agit donc des accusations d'outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. À ces accusations s'étaient ajoutées en octobre dernier les 7 chefs d'inculpation qui pesaient également sur Ousmane Sonko, parmi lesquels appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'État. Bref, je ne vais pas tous les citer. Mais toutes ces accusations, en effet, disparaissent et le casier judiciaire de Bassirou Diomaye Faye redevient vierge.
En revanche, un peu plus compliqué tout de même pour Ousmane Sonko, puisqu'il y a 3 procédures judiciaires qui pèsent contre lui.
Oui, la dernière, celle pour laquelle Ousmane Sonko a été arrêté toute fin juillet pour appel à l'insurrection, je viens d'en parler. Cette affaire-là disparaît avec l'amnistie. Mais il y avait aussi la condamnation à 6 mois de prison pour diffamation dans le procès qu'il opposait au ministre du Tourisme, Mambaye Niang. Alors d'après les avocats de l'État du Sénégal à qui j'ai pu parler, cette condamnation disparaît également avec l'amnistie car elle a eu lieu dans la période et le contexte sur lequel porte cette loi, à savoir toutes les accusations d'infraction infractions commises entre février 2021 et février 2024 en lien avec des manifestations ou ayant des motivations politiques. Avec cette condamnation qui tombe, c'est important, Ousmane Sonko retrouve ses droits civiques et il va être réintégré au fichier électoral. Enfin, reste la dernière affaire judiciaire, celle entamée par la jeune femme Hadji Sarr pour viol. Ousmane Sonko avait été reconnu coupable de corruption de la jeunesse en juin dernier. Un jugement par contumace, puisqu'à l'époque, Ousmane Sonko avait refusé de se présenter au procès. Or, l'opposant ayant été arrêté depuis, cette arrestation casse cette première condamnation par contumace et oblige en fait à reprendre l'intégralité du procès selon le droit sénégalais. Ousmane Sonko devrait donc en réalité être rejugé pour cette affaire. Mais en attendant, en effet, Ousmane Sonko n'a plus de condamnation qui le vise.
Et on en parlera évidemment tout à l'heure dans le débat du jour d'appel sur l'actualité avec les auditeurs. La Mabanque, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bonne chance au candidat, merci bien.
Et merci de nous écouter à Conakry, dans la capitale guinéenne. Léa Lisa Westerhoff, très bonne journée à Dakar et on vous retrouve évidemment avec nos autres correspondantes et envoyées spéciales de RFI pour suivre cette campagne électorale inédite au Sénégal. Et si vous avez pris en cours les explications, les analyses de Léa Lisa Westerhoff, pas d'inquiétude, vous pouvez les réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Il est 8h17 en temps universel, on va parler du Tchad après une annonce la semaine dernière qui aurait pu être saluée, applaudie par les ménages tchadiens, mais vous allez l'entendre, elle suscite quelques grincements de dents. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan et bonjour à Carole
Valade. Ah, Carole Valade, vous êtes très bien informé, notre correspondant à N'Djamena. Soyez le bienvenu, Carole.
Bonjour Juan, bonjour Souleymane et bonjour à tous.
On vous écoute, Souleymane, vos questions.
Au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby vient d'annoncer la gratuité de l'eau et l'électricité jusqu'à fin décembre 2024. Juan, de ce fait, la question qui se pose est la suivante.
Oui.
Pourquoi avoir choisi ces deux services alors qu'ils sont rarement disponibles ?
Ouais, c'est vrai que ça fait des semaines que N'Djamena vit au rythme des coupures d'électricité et d'eau. Carole Valade, c'est vrai que nombreux sont les Tchadiens à se demander pourquoi décider de la gratuité d'un service qui finalement n'est pas fourni.
Absolument. Et c'est intéressant parce que cette question, justement, elle a été posée même il y a à peine quelques jours sur les ondes de la télévision nationale, directement au ministre des Finances, c'est-à-dire Amine Guilin, qui a donné à ce sujet plusieurs explications. Alors, d'abord sur les délestages. Alors, je ne sais pas quelle est la situation chez vous, Souleymane, mais comme vous l'avez rappelé, Juan, dans certains quartiers à N'Djamena, là, les habitants se plaignent de ne pas avoir vu la lumière depuis près de 3 semaines maintenant. Le ministre, donc, je disais, invoque la saison chaude, d'abord, qui entraîne chaque année un pic dans la consommation, alors que l'offre d'électricité ne suit pas. Mais, dit-il, il faut y voir une mesure à long terme, parce qu'à la fin de la saison chaude, c'est-à-dire en juin à peu près, l'électricité devrait revenir et elle sera toujours gratuite jusqu'à la fin de l'année. Mais il faut aussi voir la mesure à l'échelle nationale, toujours selon le ministre. Les villes de l'intérieur du pays comme Abéché ou Mongo ont l'électricité à 100%, dit-il, et donc elles bénéficieraient pleinement de la mesure. Et enfin, la partie la plus importante, c'est-à-dire la prise en charge des arriérés, l'ardoise est effacée, comme on dit, on repart à zéro. Donc, si vous aviez des dettes à la SNE, Souleymane, elles sont effacées, vous ne devez plus rien.
Ouais, en tout cas, cette décision, elle intervient et ça n'a échappé à personne, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il ne faut pas y voir une mesure électoraliste ?
Alors ça, c'est en tout cas ce que pensent la société civile et l'opposition. Pour eux, ça fait aucun doute, ça ne peut pas être un hasard de calendrier. D'autant qu'il y a tout juste un mois, le gouvernement décrétait au contraire une augmentation des prix du carburant. Vous vous en souvenez, plus 40% sur l'essence quand même, provoquant une hausse des prix du transport et la grève illimitée des fonctionnaires qui continue jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il y a certains observateurs qui font aussi remarquer que la hausse du prix du carburant, c'était le Premier ministre, Succès Massra, qui l'avait annoncé, alors que la gratuité de l'électricité, c'est sur instruction du président de transition. Les deux têtes de l'exécutif, qui, vous le savez, vont s'affronter dans les urnes le 6 mai prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle.
Oui, Souleymane, votre dernière question.
Oui, d'autres mesures sociales sont-elles à prévoir ?
Que sait-on, Carole Valade ?
Alors là, désolé, j'ai pas d'informations sur de nouvelles mesures immédiatement qui pourraient survenir, mais déjà sur ces mesures-là, c'est-à-dire la gratuité de l'eau et de l'électricité, certains se demandent si c'est vraiment une mesure sociale, dans le sens où en fait, elle touche une petite partie des Tchadiens, hein, puisque au Tchad, c'est entre 6 et 11% de la population qui a accès à l'électricité, hein, ce sont les estimations de la Banque mondiale. Et enfin, les économistes aussi s'interrogent sur le financement de cette mesure, dont le coût n'a pas encore été évalué. Hein. Selon certaines indiscrétions, les calculs seraient toujours en cours et ils pourraient être même très élevés, surtout qu'ils n'étaient pas prévus dans le budget. Donc en fait, ça risque aussi de creuser le déficit si le Tchad a recours à l'endettement.
Mais quand on lit, Carole Valade, la circulaire publiée la semaine dernière, il y a, mais je parle sous votre contrôle, une baisse de 50% des taxes sur le transport. C'est quand même une autre mesure sociale.
Oui, il y a ça. Puis on n'a pas parlé aussi de la gratuité de l'eau courante. C'est une autre mesure sociale. Pour ce qui est du transport, maintenant, donc il y a cette baisse des taxes qui a été décrétée, mais il faut encore que l'État maintenant s'entende avec les syndicats de transporteurs pour que ces derniers répercutent la baisse des taxes sur leurs prix. Et pour l'instant, ces prix n'ont pas encore bougé. Malgré tout ça, le ministre s'est montré très optimiste dans son interview. Hein, il a même annoncé que les prix des céréales pourraient baisser prochainement en raison d'une chute des cours mondiaux. La période la plus difficile est derrière nous, a-t-il déclaré. Il a promis que de grands projets allaient améliorer la fourniture d'eau et d'électricité à l'horizon 2025.
Voilà donc un ministre qui, visiblement, est déjà en campagne électorale. A-t-on répondu à vos questions, Souleymane?
Très bien répondu, Juan. Merci.
Et bonne journée à N'Djamena. Et je salue évidemment notre correspondant sur place, Carole Valade. 9h22 à Paris. Vous avez des questions sur l'actualité. Surtout, ne restez pas dans le doute. Appelez-nous. Vous connaissez le numéro. Je vous le redonne au cas où. 33 9 693 693 70. Sinon, vous nous écrivez bien évidemment sur les réseaux sociaux. Sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. Car le principe de cette émission, c'est de vous entendre, de vous donner la parole, que vous puissiez vous-même poser les questions aux journalistes des RFI et aux experts qui acceptent d'être avec nous pour mieux vous éclairer sur l'actualité et les sujets qui vous intéressent. Vous avez été, j'ai envie de dire nombreux, mais plusieurs d'entre vous nous ont appelés sur la situation en Haïti. On est maintenant à une semaine après la démission du très impopulaire Premier ministre Ariel Henry. Bonjour Sani.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI,
actuellement. La RFI, merci de nous écouter à Cotonou, au Bénin. Quelles sont vos questions?
Alors, je voudrais parler Haïti. La démission du premier ministre haïtien était une revendication du chef gang Barbecue. Mm-hmm. Alors, ma première question, comment expliquer que ce gang soit aussi puissant au point d'obtenir la démission du premier ministre?
Alors, pour vous répondre, nous avons contacté Jean-Marie Théoda. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes géographe et spécialiste de Haïti. Alors effectivement, Sani a raison, cette démission, elle était réclamée par les bandes armées qui sèment la terreur dans le pays, et notamment par ce chef de gang Barbecue, mais c'était aussi une exigence de la population.
Ah, voilà. Je vous remercie de cette dernière précision, et je remercie également Sami pour sa question. C'est-à-dire, avant d'être rattrapé par Barbecue au vol, cette revendication a toujours été, et dès le premier jour de son arrivée au pouvoir, ça a toujours été une revendication populaire. Alors aujourd'hui, la confusion de la situation, c'est lorsque justement Barbecue s'empare d'un discours pseudo-révolutionnaire, qu'il se présente comme un leader social œuvrant pour la paix, le partage. Il parle de paradis pour tous, il demande la démission d'un Premier ministre totalement illégitime, mais en fait, c'est vraiment le loup qui se fait passer pour un agneau. Mmh. C'est un brigand, un criminel qui se fait passer pour un révolutionnaire, il ne faut pas s'y tromper.
Un criminel, dites-vous, mais qui menaçait d'une guerre civile qui conduirait à un génocide si la communauté internationale avait continué à soutenir Ariel Henry.
Tout à fait. Mais ici encore, il faut faire attention à la sémantique, attention aux termes utilisés par Barbecue et à ne jamais le prendre pour argent comptant. Barbecue lui-même, on va dire, l'autre face d'une même médaille, représentée par l'ancien Premier ministre, Ariel Henry, c'est-à-dire de l'illégitimité du pouvoir. L'illégitimité d'un pouvoir qui repose sur la force et qui n'a aucune forme de légitimité pour parler au nom du peuple haïtien. Et à ce titre, il ne s'agit pas de guerre civile, mais au contraire d'assassinat pur et simple. Il ne s'agit pas de génocide, parce que ce n'est pas le peuple haïtien contre un autre peuple. Donc, Barbecue a l'art d'utiliser une sémantique symbolique dont il connaît la puissance sur le plan médiatique, mais qu'il est totalement illégitime à utiliser.
Alors, d'autres questions au standard. Bonjour Nadège.
Bonjour Ron.
Et merci de nous écouter dans la capitale centrafricaine. Quelles sont vos questions ?
J'aimerais savoir qui dirige l'île depuis la démission du Premier ministre et comment le pays va-t-il constituer un nouveau gouvernement dans ce contexte ?
Alors, qui dirige Haïti depuis la démission d'Ariel Henry ?
Alors, depuis la démission d'Ariel Henry, on peut dire que la situation n'a guère évolué, au sens qu'il est question aujourd'hui de nommer un conseil présidentiel de 7 membres. Jusqu'aux dernières nouvelles, il manquait encore un membre à cette... En Haïti, on parle de bête à 7 têtes pour dire que c'est déjà... un constat d'immobilisme. Oui. Là où il faudrait une personne avec une autorité et un charisme au-dessus de tout soupçon, on nous a nommé 7 anciens politiciens, plus ou moins recyclés, si vous voulez, alors que nous voudrions avoir des têtes nouvelles aux commandes.
Effectivement. Et légitimement, on peut se demander comment ce conseil à 7 têtes va pouvoir s'entendre ensuite pour nommer un Premier ministre et conduire le pays vers des élections. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, Jean-Marie Théoda, qui dirige le pays concrètement ? Puisque Ariel Henry, lui, il a démissionné. Il dit qu'il continuera à gérer les affaires courantes. Mais enfin, pour l'instant, il est toujours bloqué à Porto Rico, hein, si mes informations sont toujours bonnes.
Alors, ce que nous avons pu constater depuis le début du mois de mars, donc depuis aujourd'hui 2 semaines, c'est que justement ce pays n'est plus dirigé. La situation n'est guère différente entre le moment où Ariel Henry était au pouvoir, parce qu'il ne dirigeait déjà rien. Ce que nous avons pu voir, c'est que les gangsters ont pu occuper la place publique, attaquer le palais national, attaquer le pénitencier national, libérer plus de 4500 bandits criminels extrêmement violents. Ils ont assassiné des policiers, pour ne rien dire de la population civile qui n'a pu en fait que prendre ses jambes à son cou. Il y a plus de 340 000 personnes déplacées à Port-au-Prince sur une population de 3 millions. C'est-à-dire que Ariel Henry ne contrôlait déjà rien. Donc qui dirige aujourd'hui Haïti ? J'ai envie de vous dire personne, et surtout pas Barbecue, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que Barbecue cherche non plus à prendre le pouvoir, ce qui voudrait dire s'occuper de l'éducation, de la sécurité, de l'eau. Vous parliez tout à l'heure du Tchad où il est question de gratuité, de services publics. Mais tout cela ne relève pas des responsabilités des brigands dans la rue.
Mais est-ce qu'il va falloir composer malgré tout avec ces chefs de gang ?
Il ne faut surtout pas. Ce serait comme pour nous, si vous voulez, en France, composer avec les nazis après la libération.
Donc ils vont toujours continuer à semer la terreur.
Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure capable de réprimer leur forfait.
Alors justement, en 30 secondes, hein, je me fais le porte-parole de Macken qui nous a écrit de Jacmel, c'est en Haïti, hein, dans le sud-est du pays. Il veut comprendre le motif invoqué par les autorités kényanes pour justifier la suspension de l'envoi de policiers kényans en Haïti.
Sur le plan juridique, c'est tout à fait compréhensible. On n'intervient pas dans un pays qui n'a pas à sa tête une autorité légitime. Et tant que même ce conseil présidentiel de 7 têtes n'arrive pas à se mettre en place, le Kenya est dans son droit de dire que nous attendons. D'autant que le Kenya, dès le départ, et ça fait 6 mois que le Kenya a été désigné comme responsable de cette mission, le pays n'a absolument rien fait dans le sens d'une aide véritablement utile vers Haïti.
Oui, en tout cas, le Kenya était à 2 doigts de déployer ses policiers sur le terrain lorsqu'est intervenue donc cette démission du Premier ministre Ariel Henry. Merci infiniment Jean-Marie Théoda, géographe et spécialiste d'Haïti, d'avoir été avec nous quelques instants pour répondre à quelques-unes de nos questions et des questions des auditeurs. Il sera dans quelques instants 9h30 à Paris. On se retrouve évidemment dans 10 minutes pour débattre de la campagne électorale au Sénégal.